Du genre dans l'histoire, épisode 6. Femmes au travail, de l'atelier à l'usine.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un rendez-vous spécial à l'occasion du Festival de l'Histoire de Blois, organisé cette année sur le travail. Nous accueillons Fanny Gallo, Julie Pilorget, toutes les deux chercheuses qui ont travaillé sur cette thématique. Et la problématique de cet épisode sera, en nous intéressant au travail féminin sur deux périodes, Moyen-Âge, époque contemporaine, donc à 500 ans de distance, quelles sont les permanences et les évolutions du travail féminin? Dans une deuxième partie, nous nous demanderons comment mieux intégrer ces thématiques du travail dans les cours d'histoire du secondaire. Pour commencer, comme d'habitude, nous allons demander à nos intervenantes de se présenter. Fanny, tu es déjà venue, il y a quelques épisodes, nous parler de ton travail de formatrice à l'INSPE de Créteil. Aujourd'hui, tu vas plutôt insister sur tes recherches. Donc, pour toutes les deux, quelles sont vos formations, vos espaces et vos thèmes de recherche et votre activité professionnelle actuelle?
On va commencer par le Moyen-Âge?
Oui, Julie, vas-y.
Bonjour, alors je suis donc agrégée d'histoire et docteur en histoire médiévale. Donc j'ai réalisé une thèse qui porte sur la place des femmes dans l'espace public à la fin du Moyen-Âge à partir de l'exemple d'Amiens et donc plus largement du nord-ouest de la France. Actuellement, j'enseigne depuis quelques années en secondaire au collège Pierre de Ronsard dans le 17e arrondissement. Et à côté, je suis préparatrice pour l'agrégation d'histoire à Sciences Po, ainsi que vacataire à l'occasion à l'université de Paris 7 et de Paris 8. Et le week-end, je me repose.
Et toi, Fanny ?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je travaille donc sur le très contemporain. J'ai réalisé une thèse sur les ouvrières en France des années 1968 au très contemporain. Donc plus précisément, parce que ce n'est pas toutes les ouvrières en France, bien sûr, ce serait très prétentieux, sur deux entreprises, Chantel, donc, qui fabrique de la lingerie haut de gamme en Loire-Atlantique, et Moulinex, petit électroménager en Basse-Normandie. Depuis, donc, je poursuis mes recherches sur l'histoire du syndicalisme et des féminismes, mais j'ai récemment commencé une recherche sur les travailleuses dites immigrées, dans la même période, des années 68 aux années 90, enfin, c'est pas tout à fait tranché en termes de bornes chronologiques, à partir notamment des archives d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui s'appelle Pauline Roland, qui est situé dans le 19e arrondissement de Paris, dans lequel les femmes sont insérées par le travail, puisqu'il comporte des ateliers de couture, de buanderie, etc.
On comprend, Fanny, que pour toi, la question du travail est absolument centrale dans l'ensemble de tes recherches. Julie, ce n'est pas vraiment le cas.
Alors, ce l'était au début, en fait. Donc, j'ai fait partie de cette génération, la dernière qui a passé la grègue en M1. Et donc, j'ai bénéficié alors donc, d'une année de préparation à mon doctorat pour la demande d'un contrat doctoral. Et au cours donc, de cette année de préparation, mémoire de Master 2 portait sur la question particulière du travail des femmes. Donc c'était mon cas d'étude, effectivement, pour demander l'obtention d'un contrat doctoral. La question s'était posée éventuellement d'étudier le travail des femmes dans diverses villes du Royaume de France ou d'Occident. Et il m'est apparu très vite qu'il était important, en fait, pour comprendre pleinement la place des femmes dans le travail, d'étudier la société et la ville comme un fait total. Et que donc la place des femmes dans l'économie ne pouvait se comprendre que si l'on analysait la place que leur donnait le droit et en découlait aussi une certaine visibilité dans la société, en termes également de droit et dans le traitement des femmes en justice. Donc plutôt que de mener une analyse comparative entre plusieurs villes, j'ai fait le choix de la monographie, à première vue pas très glamour, mais qui avait le bénéfice l'intérêt vraiment d'aller en profondeur, je pense, et de soulever des problématiques, d'avoir aussi une lecture quasi exhaustive des sources, dont le but était aussi de mettre vraiment en relief la présence des femmes dans tous les aspects de la société.
Et simplement pour rebondir là-dessus, sur la question de la centralité du travail, et je pense que ça fait lien aussi avec ce que tu viens de dire, Julie, je crois que dans mes recherches, et du coup, de ce que je comprends, y compris dans les tiennes, D'emblée, il s'agit de se poser la question de la définition du travail. C'est ce que dans la lignée donc, des élaborations féministes des années 70, il est aujourd'hui totalement impossible de n'envisager le travail que dans sa dimension professionnelle, puisque voilà, le travail domestique et le travail professionnel sont intrinsèquement liés dans le cadre de la division sexuée du travail. Alors déjà, bah, d'une part, dans le quotidien, hein, dans l'appréhension des conditions de travail, donc notamment des ouvrières, ce sur quoi j'ai travaillé, la taylorisation du travail domestique, on y reviendra peut-être, la contrainte du temps, le continuum qui s'opère dans une journée complète. Et puis peut-être surtout aussi, dans la déqualification en fait, du travail professionnel qui s'explique finalement par la naturalisation des compétences des femmes qui en fait, voilà, sont le produit du travail domestique. C'est-à-dire qu'on naturalise les compétences des femmes et en réalité, ces compétences, elles ont été apprises justement dans le cadre du foyer. Mais du coup, cette naturalisation des compétences et cette déqualification qui l'accompagne produit finalement les inégalités salariales qui d'ailleurs continuent d'exister aujourd'hui. Hein, on le voit bien, par exemple, quand on parle des aides à domicile, mais c'est aussi précisément le cas des ouvrières sur lesquelles j'ai travaillé, puisqu'on considère que la dextérité, par exemple, c'est totalement naturel. Et d'ailleurs, le CNPF, qui est l'ancêtre du MEDEF, le disait en 71, que les femmes sont adaptées naturellement aux tâches répétitives et simples, alors même que donc, dans le cadre du foyer, dans le cadre du travail domestique, toutes ces compétences sont acquises.
Alors, nous reviendrons plus tard sur ces histoires de tâches naturelles et de formation des femmes. Auparavant, j'aurais bien aimé que vous reveniez l'une et l'autre sur le choix de la période que vous avez établie pour votre thèse. Il me semble que toutes les deux, vous revendiquez le fait que ce soit une période de transition. Fin des Trente Glorieuses pour Fanny et 15e siècle, début du 16e siècle pour Julie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce sont des périodes de transition ?
Alors pour moi, c'était même, je pense, avant les femmes, l'un des points de départ de ma thèse. C'est-à-dire que je voulais travailler effectivement sur des périodes charnières et j'ai toujours eu à cœur de m'interroger et de remettre en cause les périodisations historiques traditionnelles qui sont le fruit d'une lecture de l'histoire par des hommes et pour les hommes. Ce travail est amorcé dès les années 1970 par certaines historiennes, notamment américaines. Je pense à John Kelly Gadol qui a écrit ce très bel article intitulé « Did Women Have a Renaissance ?» en 1970, si je ne me trompe pas, qui a été suivi par la suite, des années plus tard, d'un second article de Mary Wiessner posant cette fois la question autrement « Did women need the Renaissance ?» Effectivement, puisque en réalité, la charnière 15e-16e correspond plutôt, pour l'histoire des femmes, à un moment de renfermement. On a longtemps utilisé ce terme. Moi, je préfère parler de désinstitutionnalisation ou de déqualification, une perte de reconnaissance pour les femmes qui, en réalité, vont continuer de travailler, vont continuer d'être présentes dans de nombreux aspects de la vie économique, mais ne seront plus reconnues dans les statuts, dans les ordonnances de métier. On observe aussi une perte de salaire sur laquelle on pourra revenir. Et donc, voilà, moi, c'était interrogé cette charnière au sein de l'histoire des femmes, mais également sa chronologie plus fine, puisqu'on constate également que cette désinstitutionnalisation, cette perte de reconnaissance s'amorce assez tôt dans le sud de l'Europe, dès en fait les 14e, 15e siècles, alors que c'est plutôt 15e, 16e pour le nord de l'Europe, alors avec bien sûr des nuances régionales, mais grosso modo, il y a un siècle à peu près quand même d'écart sur la période, et cette déqualification est aussi est à mettre sur le compte de plusieurs phénomènes, tout d'abord celui de la mise par écrit du droit. On va prendre pour modèle le droit romain, qui est un droit assez misogyne, pour le dire simplement. Sa mise par écrit systématique va être une grosse perte pour les femmes. Il y a également le mouvement de fermeture des corporations et la contre-réforme catholique qui répond à la réforme protestante, qui va rappeler le rôle de la femme au sein du foyer. Voilà pour la période. Pour l'espace, sur les conseils de ma directrice, il me fallait une zone accessible pour mes déplacements. Donc, c'était d'abord le premier critère, très pratique, mais il faut le prendre en compte, puisque ma directrice était Elisabeth Crozet-Pavant, donc spécialiste de l'Italie, donc pas du tout la même ère géographique. Mais cette dernière avait un peu travaillé sur les archives du Nord lorsqu'elle était plus jeune, puisqu'elle avait exercé un peu à l'Université de Lille, et il y avait un fonds très important inexploité à Amiens. une région en plus aux confins de l'Angleterre, de l'Allemagne et des Pays-Bas, donc avec diverses influences, et surtout une région délaissée en fait par l'historiographie depuis un certain nombre d'années. Là encore, pas très glamour, mais justement qui avait le mérite d'être un terrain aussi un peu neuf pour ce travail.
Oui, alors de mon côté, effectivement, c'est également une période charnière. Hein. Je vais simplement rapidement donner quelques caractéristiques de la période. Alors bien sûr, c'est la période des années 68, hein, dans la dynamique du mouvement de mai-juin 68, avec du coup donc l'insubordination ouvrière décrite par Xavier Vignat, qui met en cause donc le travail à la chaîne, le travail répétitif, le fait d'avoir l'impression d'être des robots, le taylorisme. Voilà, et d'une part, et d'autre part, c'est aussi une période, dans les années 68, de déploiement d'une nouvelle dynamique féministe, hein, du féminisme dit de la deuxième vague, même si c'est aussi, c'est beaucoup discuté aujourd'hui par l'historiographie, mais c'est simplement pour bien clarifier pour tout le monde, qui se bat notamment pour le droit à l'avortement et la contraception. Voilà, une période de contestation importante, de contestation féministe, de contestation ouvrière, et principalement justement d'ouvriers, d'ouvrières qui sont situés au plus bas de la hiérarchie, c'est-à-dire donc les femmes, les ouvrières, les OS, mais aussi d'ailleurs les OS immigrés. Hein. Il y a eu récemment l'ouvrage de Vincent Gay qui revient un peu sur ces questions aussi, sur cette contestation des travailleurs immigrés, donc plutôt au tournant des années 80, mais en fait c'est à peu près la même dynamique, et qui de fait pose la question de l'organisation du travail et met en question justement ce taylorisme, cette organisation du travail, le fait d'être réduit à être des robots, etc. Et là on a un basculement, et c'est aussi ça qui fait la période, c'est ce que des chercheurs ont appelé donc Boltanski et Schiapello le nouvel esprit du capitalisme, c'est-à-dire une récupération finalement de ces revendications des OS par le patronat, notamment par le gouvernement. Donc après on arrive au début des années 80 avec la mise en place des CHSCT, etc. Et en même temps, une nouvelle organisation du travail qui se met en place. C'est-à-dire on passe de systèmes de grandes chaînes à des petits îlots de production où il y a une forme de polyvalence qui se met en place. C'est-à-dire que contrairement à juste avant, les ouvrières ne font plus toujours exactement la même tâche. Alors en réalité, voilà, la contrainte du temps dans le travail perdure et même finalement s'accentue, hein, puisque les temps se réduisent. Moi, je l'ai très bien vu dans les archives. Pour fabriquer un soutien-gorge, on passe moins de temps dans les années 80 que dans les années 70 à le faire, avec l'ensemble des tâches qui sont nécessaires à sa fabrication. Mais globalement, voilà, ce qui définit la période, c'est une période de contestation, de récupération du discours, de modification de l'organisation du travail. Et bien sûr, du coup, bah, ce sur quoi moi j'ai travaillé et qui est à mon avis assez significatif, c'est une génération, c'est-à-dire des ouvrières qui entrent dans les usines à la fin des années 60, au début des années 70, et qui, pour celles qui ne quittent pas l'usine, restent jusqu'aux fermetures. Et c'est donc des années 90, début des années 2000.
Alors Fanny, sur quel corpus as-tu travaillé ?
Alors donc j'ai travaillé dans un premier temps sur des archives syndicales, hein, notamment CGT-CFDT, puisque c'était les syndicats principaux sur les deux entreprises qui m'ont intéressée, que j'ai confronté aussi à des archives d'entreprises, hein, puisque j'ai eu la chance d'avoir la possibilité d'avoir accès aux journaux d'entreprises notamment, mais aussi à nombreux documents finalement des deux entreprises, hein, pour par exemple, calculer le temps de fabrication d'un soutien-gorge. Ça, c'était bien sûr dans les archives des entreprises, des archives audiovisuelles aussi, des archives féministes, puisque à l'époque, voilà, les revues féministes s'interrogent beaucoup sur la situation des ouvrières, sur leur lutte, sur les enjeux de leur lutte, notamment. Et puis, bien sûr, surtout centralement, et ce qui en définitive a fait le fil directeur de ma recherche, c'est des entretiens que j'ai réalisés avec des ouvrières des deux entreprises. Pas seulement d'ailleurs de ces deux entreprises-là, aussi d'autres entreprises que j'ai constituées en regard complémentaire, et des syndicalistes aussi, des hommes quelquefois, qui rendaient compte un peu des enjeux syndicaux dans ces deux entreprises. Et ça a constitué vraiment le fil, c'est-à-dire que pour construire mon plan, je me suis vraiment appuyé sur ces entretiens que j'ai confrontés du coup aux autres archives que je viens de décrire.
Mais pourquoi la lingerie ?
En réalité, pour définir les deux entreprises, j'avais fait un tableau Excel des recherches qui avaient été effectuées sur les ouvrières dans cette période. Et j'avais regardé un petit peu ce qu'il y avait aussi d'ailleurs comme documentaire, comme support de sources. J'ai bien sûr contacté les centres d'archives pour m'assurer qu'il y avait des sources disponibles sur lesquelles j'allais pouvoir travailler. Et puis j'avais envie de travailler sur une entreprise mixte, une entreprise non mixte, hein, puisque quasi non mixte, puisque Chantel est quasiment non mixte, alors que Moulinex est composé à 60% d'ouvrières, donc il y a en fait 40% d'hommes. Voilà, dans des secteurs d'activité différents, dans des bassins d'emploi différents, puisque Chantel se situe donc dans la zone industrielle de Nantes, alors que Moulinex se situe dans plusieurs sites en Basse-Normandie, donc avec aussi tout un enjeu ville-campagne qui apparaît d'ailleurs dans ma recherche et qui n'apparaît pas du tout chez Chantel. J'avais pas l'idée de travailler précisément obligatoirement sur la lingerie, mais de fait c'est devenu quelque chose de très intéressant puisque aujourd'hui, et comme je suis sur le très contemporain, il y a très peu de lingerie haut de gamme qui est produite en France, hein, puisque en fait la France, seule la lingerie de luxe est rentable aujourd'hui en France. Donc il y a la plupart des entreprises de lingerie haut de gamme, et donc aussi d'ailleurs bas de gamme, mais Chantel, c'est du haut de gamme, ont fermé. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle dynamique qui va s'enclencher là, en ce moment, mais avec le Made in France, etc. Mais bon, en tout cas, il y a quand même très peu d'entreprises. Et donc, du coup, c'était aussi une forme de fin de cycle. C'est-à-dire que, voilà, j'ai aussi, d'ailleurs, dans le cadre de ma recherche, il y a eu les luttes de Le Jabi. Je m'y suis, du coup, intéressée, puisque ça avait du sens aussi de revenir un peu sur... Sur Le Jabi, sur une sorte de comparaison, pas vraiment une comparaison terme à terme, ça c'était impossible, mais une mise en relation en fait de ce qui se jouait à Le Jabi et chez Chantel.
Mais c'est intéressant d'avoir choisi le textile, puisque le textile c'est un des secteurs d'activité féminin par excellence au Moyen-Âge.
Oui, c'est-à-dire c'est le premier secteur d'emploi au Moyen-Âge. Alors, concernant mes sources tout d'abord, donc c'est des sources essentiellement urbaines qui ont déterminé aussi l'amplitude chronologique de ma recherche donc avec plus de précision. Alors, dans l'idéal, j'aurais aimé vraiment mener ma recherche sur les 15e, 16e siècles, mais on reste dans un système universitaire, enfin académique français, encore très sclérosé. Et donc, on m'a bien fait comprendre que si je voulais être médiéviste, enfin, je ne pouvais pas être médiéviste et moderniste. En tout cas, il fallait que j'attende d'être grande, comme un professeur d'université m'a si gentiment dit. Et donc, il fallait quand même que je m'arrête assez tôt dans le 16e siècle. Donc j'ai commencé ma recherche en 1380, c'est la date à laquelle les registres urbains sont conservés et consignés de manière systématique. Donc ça correspond également à la pénétration de la révolution de l'écrit au nord de l'Europe occidentale. Si j'avais travaillé sur l'Italie, j'aurais pu commencer probablement beaucoup plus tôt mes recherches. Qu'on a là encore à un siècle et demi de décalage dans la pénétration de l'écrit entre le sud et le nord. Donc 1380 avec les premiers donc, registres de délibération et de comptes. Et je me suis arrêtée en 1520 car ça correspond au moment de la deuxième rédaction des coutumes. Donc rédaction systématique des coutumes et en français, ce qui donc implique une nouvelle définition du droit. Et les années 1520, c'est également le début de la conservation systématique des actes notariés. Donc il y avait aussi un biais documentaire après 1520 et un changement au niveau de la coutume donc, qui justifiait que, dans le cadre en tout cas d'une thèse, d'une première étude, je m'arrête sur ce donc sur un siècle et demi, ce qui était déjà beaucoup puisque donc, j'ai d'abord travaillé sur les ordonnances de métier, les ordonnances de la ville donc, qui sont consignées dans un premier registre. Donc le tout aux archives municipales, puisqu'Amiens étant une ville de moins de 107 000 habitants, les archives de la ville sont conservées à la bibliothèque municipale. J'ai quelques archives en départemental, mais assez peu. Donc les seconds registres, les registres bébés, ce sont les registres de délibération, autrement dit les cahiers de doléances du Moyen-Âge. Puis les registres aux comptes, qui renferment donc de nombreuses informations, notamment sur le travail des femmes et donc les femmes, notamment salariées de la ville. Et enfin, le registre FF au contrat, qui lui ne s'ouvre qu'à partir de 1440, date à laquelle tous les contrats passés entre particuliers devant les maires et échevins, donc le conseil municipal du Moyen-Âge, donc sont consignés. Un exemplaire est donné donc aux parties contractantes. Et un autre est consigné dans le registre, alors qu'auparavant, on réalisait des chirographes. Un acte était consigné deux fois sur le même parchemin, puis découpées en zigzag. Chaque partie était donnée au contractant. Et pour prouver la véracité du modèle, il fallait que chacun ramène ses deux morceaux de papier, les accole pour voilà, montrer que ça marche. Donc voilà pour les sources auxquelles j'ai ajouté également quelques sources d'Abbeville qui restent dans la même prévôté, donc dans la même région qu'Amiens et sous le même régime coutumier. Car il y a notamment le livre rouge d'Abbeville, qui est un registre judiciaire, donc de compilation entre le XIIIe et le début du XVIe siècle, donc qui est en fait un registre issu de la pratique, mais à destination essentiellement des juristes, et donc qui doit aider à l'application de la justice, avec donc des exemples de jugements, alors qui est très intéressant, mais qui, là encore, comprend de nombreux biais pour l'histoire des femmes, puisque évidemment il va s'arrêter sur les affaires les plus marquantes et considérées comme particulièrement féminines pour la période. À cela donc s'ajoute la lecture des coutumes, donc les coutumes étant des lois orales faisant foi sur par la pratique et sur le long terme, qui sont sporadiquement mises par écrit à partir du XIIIe siècle, mais qui évolue encore avec eh bien, les actes de la pratique, ce qui sera beaucoup moins le cas après 1520, lorsqu'elles sont cette fois mises systématiquement par écrit. Du coup, le droit va beaucoup moins évoluer. Enfin, j'ai consulté quelques ordonnances royales, quelques registres du Parlement de Paris pour les affaires jugées au Châtelet impliquant des amiénoises, et bien sûr un peu beaucoup d'iconographie contenue dans les manuscrits, mais également les stalles de la cathédrale d'Amiens qui ont été réalisées au début du XVIe siècle et qui représentent de nombreux personnages du peuple donc de la fin du Moyen-Âge, et un petit peu de littérature également, j'aurai l'occasion d'y revenir.
Alors, avant d'attaquer, on va dire, le dur de vos thèses, une dernière question. Toutes les deux, vous revendiquez de faire de l'histoire des femmes et de l'histoire du genre. Et toi, Fanny, tu ajoutes une autre dimension à ta thèse, puisque tu revendiques le fait de faire une histoire sociale et une histoire de classe. Sachant que pour toi, Julie, il n'y a pas de dimension, tu n'as pas du tout intégré cette dimension d'analyse de classe.
Si, un petit peu. J'y reviens un peu quand même dans mon introduction, sachant que quand même 95% des femmes dans mon corpus sont des femmes issues du peuple. Et donc, je pense quand même que le modèle ou l'outil heuristique qui est le genre, ajouté donc à la question de la domination sociale, constitue une contrainte supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a la domination des hommes sur les femmes, mais couplée avec donc une domination de classe, certaines discriminations sont exacerbées. Ce qui a justifié, alors de fait, assez tardivement, la réalisation d'un premier chapitre que je n'avais pas prévu dans ma thèse au moment de la rédaction.
Et pour toi, Fanny ?
Oui, alors effectivement, donc, je réalise une histoire des femmes, une histoire du genre, et puis une histoire sociale. Une histoire des femmes au sens où j'ai décidé de travailler sur les ouvrières et uniquement elles. Du genre au sens où j'ai envisagé les rapports de pouvoir existants et la manière dont ils varient, de la même manière, donc, notamment entre les femmes et les hommes, les relations qui peuvent exister à l'usine, et puis voilà, la mise en question des normes de genre, dans toute la période, hein, puisque j'y reviendrai tout à l'heure en donnant des exemples plus précis, mais effectivement, il y a quand même des ruptures à ce sujet que je croise à des enjeux de classe. Alors, je trouvais déjà intéressant de souligner que l'histoire ouvrière qui m'a précédée dans la période, globalement, les grandes thèses d'histoire ouvrière des années 70 avaient un petit peu tendance à mettre en question l'usage du terme de classe. Hein, donc, je ne vais pas refaire tout un cours d'historiographie à ce sujet. Mais voilà, là, c'est un peu le retour, en fait, de l'usage de la classe, des classes populaires dans l'historiographie et dans l'historiographie du travail. Ce n'est pas ma thèse qui est le retour, mais je m'inscris dans une dynamique je souhaite revenir sur reprendre à son compte l'usage de ce terme. Hein, donc, je participe par exemple, un groupe qui s'appelle Genre et classe populaire, où il y a plusieurs chercheuses qui, justement, utilisent cette question, cette notion, parce qu'elle nous paraît justement heuristique. Alors, donc, du coup, je croise évidemment, l'ensemble, le genre et la classe, parce que quand je parlais tout à l'heure des mises en cause des normes de genre, il y a aussi effectivement des normes de classe qui existent et des mises en cause des normes de classe par rapport à ça. Hein, je donne plusieurs exemples. Donc voilà, à la fois les normes de classe sur comment on perçoit la classe, comment une classe sociale est censée s'exprimer. Alors là, c'est peut-être très abstrait ce que je suis en train de dire, mais par exemple, la CGT, dans sa tradition, n'organise pas de défilé de mode. Bon, et donc là, on voit très bien de lutte, hein, de défilé de mode de lutte, puisque c'est ça qui s'est passé, par exemple, pour les Lejabi contre dans les années 90, où elles décident comme mode d'action de valoriser le produit de leur travail en faisant un défilé de mode. Donc là, de fait, ce qui se joue, c'est voilà, un croisement entre genre et classe qui met en question aussi des normes de classe qui étaient mises en avant traditionnellement par la CGT, auxquelles, de fait, faire un défilé de mode ne correspondait pas. Donc ça, c'est un premier niveau. Et après, il y a d'autres niveaux. Enfin, j'y reviens à peu près en permanence, mais je parlais de la CGT, je pourrais parler aussi des féministes qui vont à la bonnetterie de Troyes en 1971. Ça a donné lieu à un très joli film du MLF, hein, et qui et s'ensuit un débat dans les revues féministes sur c'est une grève de femmes. Ah non, c'est une lutte de classe et une grève de femmes. C'est-à-dire, globalement, est-ce que ces ouvrières de la bonnetterie de Troyes vivent la même chose que les militantes féministes du MLF qui sont en train de comprendre tout un tas de choses sur leur quotidien et sur l'idée que le privé est politique? Et s'ensuit donc tout un débat à ce sujet, un débat dans lequel, il faut souligner, les ouvrières n'ont pas voix au chapitre. C'est un débat entre féministes et les ouvrières sont des témoins. Voilà. Et donc ça aussi, on a des enjeux de genre, on a des enjeux de classe qui se croisent en permanence. Et pour terminer à ce sujet, je reprends à mon compte, enfin pas à mon compte, mais je cite, le travail de Daniel Kergoat, et qui explique à quel point en fait les rapports sociaux sont consubstantiels. C'est-à-dire que après avoir essayé quand même un petit peu mathématiquement de définir ce qui relève de la classe, qui relève du genre, en fait, c'est juste totalement impossible et ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que voilà, c'est donc consubstantiel et elle ajoute coextensif, et donc c'est un peu ça aussi que j'essaye de faire vivre dans ma recherche.
Venons-en maintenant aux caractéristiques du travail féminin. Nous allons essayer de montrer les points communs qui existent entre la période médiévale et la période contemporaine. Comment est-ce que vos travailleuses, à l'une et à l'autre, entrent dans leur activité?
On a peu d'informations pour le Moyen-Âge. Pour mon espace, j'ai seulement 5 ou 6 contrats d'apprentissage, un peu plus pour la fin de la période avec l'arrivée d'une nouvelle draperie, la Sétrie. Mais là, bon, visiblement, pour beaucoup, comme les garçons, par la raison d'un contrat d'apprentissage, entre 2 et 7 ans, selon le métier, donc elles sont nourries et logées en échange de l'apprentissage du métier chez un maître ou une maîtresse qui leur apprend le métier. Mais il n'y a pas forcément toujours de contrat d'apprentissage, probablement des femmes qui ont appris le métier au sein même des jeunes filles, pardon, au sein même de leur foyer, sous la direction de leur mère ou parfois de leur père. Voilà.
De mon côté, ça, elles rentrent principalement par le bouche à oreille, en définitive. Hein. Elles ont des amies, des sœurs, des cousines qui se font embaucher à l'usine, et du coup, elles rentrent dans la foulée, puisqu'il y a l'idée que telle ou telle usine embauche. La plupart ont un certificat d'études ou bien un CAP. Mais à ce sujet, pour insister aussi un peu sur ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du travail domestique et de la division sexuée du travail, on note beaucoup de CAP couture dans l'électronique. Par exemple, à la Thomson, voilà, à Angers, il y a des recrutements qui se font dans l'électronique sur la base du CAP couture. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire qualification, mais c'est une manière déjà de montrer que, un, la dextérité n'est pas naturelle, puisque c'est bien d'avoir un CAP couture, et deux, de ne pas les payer à la hauteur de leur qualification, puisque un CAP couture pour travailler dans l'électronique, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Donc c'est pour illustrer un petit peu cette idée de naturalisation des compétences, et en même temps, voilà, on sait très bien que c'est pas naturel, puisque on valorise quand même le CAP couture.
Juste, je préciserai quand même qu'il existe des écoles de filles au Moyen-Âge. Hein, on a des cas pour Amiens. Donc, il pouvait arriver que les petites filles aillent à l'école de 3 ans, donc ce qu'on appelle les petites écoles, souvent de 5 à 7 ans avant d'entrer en apprentissage, pour vraiment avoir le béaba, un peu lire et compter, mais surtout en fait, pour bien réciter ses prières.
Mais est-ce que le contrat d'apprentissage, est-ce que tu as les moyens de le savoir, est-ce qu'il est valorisé pour entrer dans un métier, pour une fille?
Non, c'est un peu compliqué de le savoir parce qu'on ne va pas forcément les suivre. C'est-à-dire que les rares contrats d'apprentissage que j'ai, je vous dis, mais peut-être 5 ou 6 pour les femmes, je ne vais pas forcément les suivre par la suite. C'est un peu la difficulté de mon corpus, c'est que je ne peux pas faire de prosopographie. Il m'est très dur de suivre une femme, à part quelques rares exceptions pour une sage-femme et une mère maquerelle, notamment, mais de les suivre, en fait, sur plusieurs années. Après, on sait que, par contre, l'apprentissage peut être valorisé pour se marier. Et pour entrer, effectivement, pour ouvrir un métier donc avec son conjoint. J'ai un cas, par contre, assez intéressant d'une femme, alors même qu'on constate leur disparition des ordonnances à partir du début du XVIe siècle, donc, toujours dans cette nouvelle draperie qui arrive en 1480, qui est très intéressante parce qu'elle donne lieu, en fait, à de nombreux contrats d'apprentissage. Et j'ai d'ailleurs même des hommes qui se mettent pour l'occasion en apprentissage sous la direction de leur femme. Mais après, c'est vraiment cet afflux donc, très important d'ouvriers donc, dans ce secteur de la cétrie, hommes et femmes. Une crise suit donc dans les premières décennies du XVe siècle et on bloque en fait l'accès à la maîtrise pour les hommes au milieu du XVIe siècle. Sauf qu'une femme demande aux échevins de faire une exception pour elle parce qu'elle doit se marier. Son mari est maître setter. Et bien, si elle ne devient pas maîtresse à son tour, ils ne pourront pas se marier. Donc, il y a quand même des exceptions et effectivement, parfois, alors, le contrat, je ne sais pas, mais la maîtrise est importante.
En fait, oui, c'est toute la question du travail familial là qui se pose. Est-ce que, parce que un mode d'entrée des femmes dans le travail, c'est aussi le mariage.
Oui, oui, on a beaucoup de femmes, effectivement, qui ont reçu un apprentissage, qui après ne sont pas forcément maîtresses dans les statuts, mais dont l'apprentissage était requis pour devenir une ouvrière totalement opérante, opératoire, aux côtés de leur époux. Et alors, c'est toute l'ambiguïté du terme de maîtresse. Moi, je maintiens que maîtresse, dans certains cas, veut dire femme de maître, mais on a également des cas de maîtresse qui exercent et tiennent toute seule le métier. Les deux coexistent.
Lorsqu'on vous écoute, on se rend compte qu'on est sur deux types déjà de travaux différents, puisque de chez toi, Fanny, c'est du salariat. Et lorsqu'on parle de travail médiéval, eh bien, on est immédiatement devant une variété immense de situations très diverses. Et on essaiera de débroussailler ça au fur et à mesure que nous allons avancer. Alors, est-ce que vous avez des informations l'une et l'autre, je sais que vous en avez, sur les conditions de travail de ces femmes?
Je voulais m'appuyer pour l'illustrer sur le début d'un film de Marine Kermitz qui s'appelle « Coup pour coup », où... les conditions de travail des ouvrières sont très bien explicitées puisqu'on a un bruit très très fort, très puissant. On a une contremaîtresse qui passe dans les rangées avec donc un stylo dans la main, signe du fait qu'elle peut mettre des sanctions, signe de la discipline. On a l'horloge en permanence, des plans sur l'horloge, des plans sur le temps, la contrainte du temps, l'accélération, etc. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce film se lance sur une crise de nerfs. Donc, on a les 12 premières minutes où on a ces conditions de travail, justement. Et puis, d'un coup, il y a une ouvrière. On a senti un peu qu'il y avait une montée en puissance de la tension, puisque, voilà, elle a des bannettes qui passent et puis elle a une panne. Sa machine à coudre est bloquée. Et du coup, ça commence, la panique commence à arriver avec le temps, le bruit, la contremaîtresse, le temps, le bruit, la contremaîtresse, son truc bloqué. Et bam, d'un coup, elle explose. Elle balance ses bannettes partout. Et là, crise de nerfs. Et donc, à partir de... Et ça, en fait, ce qui se passe, j'en rends compte parce que je trouve que c'est assez visuel aussi, enfin bon, même si là on écoute, et ça illustre très bien les conditions de travail justement des ouvrières dans les années 68. C'est-à-dire que j'ai constaté par hasard, et j'en ai fait un article, mais c'était pas du tout prévu au départ, que beaucoup de grèves d'ouvrières étaient déclenchées par des crises de nerfs. Et en réalité, à ce moment-là, les organisations syndicales, le patronat, etc., comprenaient pas trop parce que elles portent pas de charges lourdes, il y a aucun souci en réalité, leurs conditions de travail, elles font toujours le même geste, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et sous la pression des mobilisations des ouvrières, de leurs demandes, etc., des ergonomes viennent voir un peu ce qui se passe dans ces usines et s'aperçoivent de, justement, cette contrainte du temps, cette charge mentale permanente. C'est-à-dire que quand une machine à coudre s'arrête ou est en panne, c'est un stress absolument démesuré qui s'opère, en fait. D'où la crise de nerfs. Et bien sûr, ça n'est pas des problèmes chez elles, puisque c'est comme ça que répond la direction de l'entreprise. Genre, elle a des problèmes chez elle. Et puis, de toute façon, c'est un truc de bonne femme. Hein, les crises de nerfs, on sait bien. C'est l'hystérie des années 68. C'est l'organisation du travail qui produit ces crises de nerfs. Et en fait, le fait qu'elle fasse grève à partir d'une crise de nerfs, c'est une manière de dire justement non, c'est pas un truc de bonne femme, non, c'est pas des problèmes chez moi, le problème, c'est l'organisation du travail. Et en fait, voilà, je trouve que c'est assez révélateur, l'ensemble de cette boucle, ça rend bien compte de ces conditions de travail. Et non, ça n'est pas les mêmes conditions de travail que les hommes, enfin, que les OS immigrés, oui, puisque eux, comme les femmes, sont au plus bas de la hiérarchie dans le cadre de la division sexuelle du travail. Hein, c'est l'établi de Robert Linhart qui en rend très bien compte pour ce qui concerne les OS immigrés. Mais la plupart des hommes dans les entreprises sont régleurs, sont des ouvriers qualifiés. En gros, chez Moulinex, par exemple, où c'est une entreprise mixte, plus on monte, moins il y a de femmes. Donc ça, c'est un phénomène assez classique. J'y reviendrai tout à l'heure.
Sans doute, la non-reconnaissance des savoir-faire féminins, la dextérité, la capacité d'assumer plusieurs tâches, comme qualification, puisque ce sont des qualités dites naturellement féminines, participe de la souffrance psychique des ouvrières et de ses manifestations spécifiques. Pascal Molinier considère la crise de nerfs comme une surenchère dans les signes d'expression de la souffrance féminine, les pleurs étant souvent considérés comme attendus. Pourtant, cela ne suffit pas car il se pourrait que des hommes en soient eux aussi victimes, mais que les discours les concernant diffèrent. Christophe Dejour note que les décennies de taylorisme et de fordisme du début du XXe siècle avaient déjà pu pousser les cadences infernales jusqu'au point de rupture, avec des crises de nerfs chez les femmes, des colères collectives chez les hommes. Les manifestations semblent donc différentes d'un genre à l'autre. Fanny Gallo, La crise de nerfs, de la souffrance à la résistance, Clio, Femmes, Genre, Histoire, numéro 29, édité chez Belin en 2009.
Alors pour le Moyen-Âge, c'est assez compliqué. Là, on n'a pas beaucoup de renseignements, parce que ce sont essentiellement des sources normatives. Et dans les registres de délibération que j'ai pu consulter, je n'ai pas forcément beaucoup de renseignements, mais que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, elles sont soumises aux règles, aux mêmes règles, aux mêmes réglementations, avec la question des heures de début et de fin du travail. Alors on constate évidemment une différence salariale, considérer ça comme une condition. C'est plutôt la littérature qui va nous donner des informations à ce sujet. On peut penser à la complainte des tisseuses dans Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes à la fin du XIIe siècle. Voilà, la complainte des tisseuses de soie. C'est assez difficile de vraiment percevoir de ce point de vue-là la femme. La situation des femmes où, alors, un exemple, mais ça peut apparaître comme un impact, c'est le cas d'une sage-femme qui demande, mais j'aime beaucoup cet exemple parce qu'elle, dans un registre de délibération, elle demande aux échevins de dispenser son mari du guet, car lorsqu'elle aide les femmes au travail la nuit, eh bien, il faut quelqu'un pour garder les enfants. Donc voilà, les échevins vont dispenser son mari du guet pour qu'il puisse garder les enfants. Et on est en 1425.
Oui, c'est complètement passionnant. Alors justement, puisque tu évoques hommes et femmes dans leur journée de travail, est-ce que au Moyen-Âge, et en particulier à Amiens, est-ce qu'on peut distinguer des tâches qui sont spécifiquement féminines ?
Oui, dans la draperie, évidemment, on assiste à un renouveau, à l'essor d'une nouvelle draperie au cours des 14e, 15e siècles. Effectivement, on a une répartition assez nette des tâches, où les tâches de finition et d'après sont réservées aux femmes, alors que celles qui vont demander un peu plus de force, notamment pour la teinture ou le foulage des draps, vont être réservées aux hommes. Après, j'ai constaté quand même la présence des femmes dans à peu près quand même les deux tiers des métiers exercés à Amiens au cours du Moyen-Âge, sur à peu près 90 métiers recensés dans les ordonnances, même par exemple parmi les bouchères, alors que normalement se pose l'interdit du sang. Mais effectivement, elles ne vont pas être à l'abattage des viandes. Elles ne vont être qu'à la vente. Voilà. Donc, effectivement, cela va dépendre sur les chantiers de construction. Elles vont être plutôt dans le transport de l'eau et des petites pierres et dans la réalisation du mortier, par exemple.
Donc, en fait, elles sont présentes dans la plupart des métiers, mais pas nécessairement aux mêmes tâches que les hommes.
Non, et pas à toutes les étapes.
Et est-ce que tu as déjà abordé la question, Fanny, tout à l'heure, en montrant que c'était surtout un problème de qualification et de tâches plus ou moins qualifiées entre hommes et femmes dans l'industrie, en particulier dans l'industrie
pour peut-être répondre à cette question, c'est dans l'industrie, on le voit vraiment de manière très claire dans toute cette période, c'est l'idée de donc division sexuée du travail. Donc j'en ai parlé plusieurs fois, mais je ne l'ai pas définie. C'est une conceptualisation élaborée là encore par Daniel Kergoat. C'est l'idée, division sexuée du travail, c'est un principe de séparation et un principe de hiérarchisation. C'est-à-dire, séparation, c'est que tendanciellement, les femmes et les hommes ne font pas les mêmes métiers d'une part, et d'autre part, bien sûr, il y a ce travail domestique qui est... largement assumé par les femmes. Et hiérarchisation, c'est que quand ils sont dans les mêmes secteurs d'activité, les femmes sont au plus bas de la hiérarchie, et plus on monte, plus on trouve des hommes. Et donc c'est précisément ce que je vois dans ma thèse, c'est-à-dire dans mes recherches, mais y compris d'ailleurs, c'est valable en fait pour l'ensemble de l'industrie sur la période, et même c'est valable à la limite pour le monde du travail dans son ensemble, même si bien sûr tout ça est tendanciel et qu'il y a aussi des évolutions récentes à ce sujet. Mais voilà, on trouve quasi exclusivement des femmes dans le textile et l'habillement, et chez Moulinex, il y a une majorité de femmes au plus bas de la hiérarchie. Donc non, les femmes et les hommes ne font pas... précisément les mêmes métiers, les mêmes travaux, les mêmes tâches. Alors, cela dit, ça peut arriver. Ça peut arriver et c'est largement dénoncé dans les années 70. C'est l'idée, après, c'est dénoncé sur l'idée de à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire que quand elles font les mêmes tâches, qui arrivent quelquefois, elles sont moins rémunérées que les hommes. Il y a plusieurs lois en 72, etc., qui imposent l'égalité salariale. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de comprendre que progressivement, dans les années 70, on s'aperçoit que l'enjeu, ce n'est pas tant à travail égal, salaire égal, ça l'est quelquefois un peu, hein, quand même, que la question de, justement, l'égalité professionnelle, la mise en cause de la division sexuée du travail. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'avais rencontré un syndicaliste de Moulinex qui me disait « Mais il n'y a aucun problème à Moulinex, l'égalité est respectée ». Voilà, parce que fondamentalement, les femmes et les hommes n'étaient pas au même lieu dans le travail et donc sont largement moins payés que les hommes. Mais de fait, comme il n'y a pas un homme et une femme qui font précisément la même tâche, il n'y a pas de problème d'égalité salariale. Donc voilà, petit à petit, dans la dynamique de lutte et d'ailleurs aussi sous la pression même des institutions à cette époque, puisqu'il y a quand même aussi des grèves aussi, enfin des institutions européennes notamment, et puis il y a aussi des grèves dans d'autres pays, par exemple en Belgique, etc., qui mettent en avant cette idée d'égalité salariale. On a progressivement une réflexion qui s'élabore dans la période autour de cette question. Et d'ailleurs, Moulinex est une des premières entreprises à avoir signé un plan d'égalité professionnelle, c'est-à-dire visant à, donc avec la loi Roudy de 1983, visant à former des femmes dans l'entreprise de manière à ce qu'elles occupent des fonctions, par exemple, de régleurs ou d'ouvrières qualifiées comme les hommes.
Alors, face à toutes ces difficultés que rencontrent les femmes dans leur vie professionnelle, avez-vous, l'une et l'autre, observé l'existence de solidarité féminine ? Et si oui, quelle est la place de ces solidarités dans la vie des travailleuses ?
Alors, de mon côté, oui, beaucoup, de toutes sortes de manières. Donc, ça peut être, par exemple, de la construction, enfin, ce que j'appelle à un moment donné dans ma thèse l'usine une famille. C'est-à-dire que, voilà, comme je le disais, je travaille sur une génération d'ouvrières donc qui entre à la fin des années 60 et qui, pour celles qui ne partent pas, restent. Donc, elles ont 20, 25, 30, 35 ans d'ancienneté dans ces usines. Et donc, elles se connaissent très, très bien. Donc, elles organisent des fêtes pour les anniversaires, des fêtes à toutes sortes de moments, en réalité, via, y compris, la chaîne qui peut être utilisée comme un lieu où on fait passer des parts de gâteau, ce genre de choses. Donc, ça, c'est un niveau. Et puis, il y a un autre niveau qu'on a travaillé aussi, plus précisément, avec Ève Meuret-Canfort, qui, d'ailleurs, sort un livre en cette rentrée, qui s'appelle « Lutter comme des mecs, le genre du militantisme ouvrier à l'usine ». Donc, c'est une sociologue. Et donc, on a travaillé ensemble sur l'idée de l'usine comme... exclusivement féminine comme groupe femmes à grande échelle, point d'interrogation. C'est-à-dire que on se retrouve à l'usine, on discute, on se voit à la machine à café, on parle, par exemple, de l'avortement, de nos avortements, on parle des violences conjugales, voilà, de tout un tas de choses de nos vies quotidiennes. Alors, majoritairement, les ouvrières ne se disent pas féministes, mais elles échangent, en fait, sur leur quotidien et elles créent du collectif autour de ce quotidien. Et d'ailleurs, on le voit très, très bien chez Chantel, au moment des grèves au début des années 80, elles parlent des maris Donc elles disent les maris, donc on a les maris de la CGT, les maris de la CFDT, les maris en soi. Les maris, c'est, ça devient une entité à part entière qu'il faut gérer pendant la grève, les maris. Et donc ça, c'est une manière de construire une forme de solidarité, voilà, sans pour autant se revendiquer comme étant féministe.
Et la place du syndicat là-dedans ? Est-ce que cette solidarité, elle s'intègre à une lutte syndicale ?
Alors oui, bien sûr. Donc là, je parlais justement de la CGT et de la CFDT. Il y a, donc chez Chantel, les syndicats sont très forts. Chez Moulinex, ils le sont aussi, mais un peu moins relativement par rapport à Chantel. Alors justement, il y a un enjeu. Voilà, ce qu'on a noté avec Ève, c'est l'idée que c'est aussi rejeter le féminisme pour finalement mieux adhérer à la classe. Donc on est encore dans l'histoire du croisement entre genre et classe, hein. Mais on est dans une période particulière, donc on pourrait en parler des heures, voire consacrer un podcast entier à cette question, puisque la dynamique féministe de la deuxième vague, évidemment, a des répercussions phénoménales sur les organisations syndicales, hein, la CGT, la CFDT notamment, différenciées, c'est pas exactement les mêmes types de répercussions, mais il se passe des choses. Donc il y a une syndicalisation déjà, puisqu'il y a aussi cette insubordination ouvrière qui se développe, ces luttes d'ouvrières, donc il y a de plus en plus d'ouvrières qui se syndiquent, et il y a une prise de conscience progressive dans ces organisations de l'enjeu féministe. Alors à ce moment-là, aucune des deux organisations ne se dit féministe, hein. Par exemple, la CGT organise en 77 une conférence sur les femmes salariées, où c'est une explosion de la parole féminine, et où pour la première fois, il est question de la domination masculine, y compris dans le syndicat. Donc c'est quand même très intéressant, en fait, hein, tout ce qui se passe. Cela dit, les retours de bâton sont très puissants, les tensions sont très fortes, voire les conflits, hein, dans ces organisations, et ça ne se fait pas non plus de manière spontanée, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est-à-dire ça se fait au prix de luttes, de combats, d'un rapport de force, en fait, qui s'exerce dans la société et du coup qui se répercute dans ces organisations. Mais à l'échelle locale, en réalité, bien sûr, les organisations syndicales sont des outils pour les ouvrières, pour leur combat quotidien, et elles s'impliquent d'ailleurs davantage à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale. Et là, c'est aussi à mettre sur le compte, justement, hein, du travail domestique, puisque même impliquées, même syndicalistes, elles s'occupent de leurs enfants, de la gamelle du mari, etc., etc.
Alors j'aurais justement une question sur l'âge et sur le vieillissement des travailleuses. Je voudrais savoir si vous les voyez vieillir dans vos sources, si l'âge est une donnée importante et quel est l'effet du vieillissement ou du veuvage pour le Moyen-Âge sur le travail féminin.
Il semblerait que le veuvage permette en fait de... Et le vieillissement des femmes, alors qu'il n'est pas... C'est deux choses... Ça peut être deux choses différentes au Moyen-Âge, parce qu'on peut être veuve effectivement très jeune, notamment en raison souvent d'une grande différence d'âge entre les époux, avec donc des hommes souvent beaucoup plus âgés parfois que leurs épouses. Donc toutes les veuves ne sont pas vieilles, hein. J'ai d'ailleurs des exemples de femmes qui sont veuves trois fois dans la dénomination et qui sont dites femmes de Robert Brissel, auparavant femme de feu Pierre Desportes, auparavant femme de feu. Voilà. Donc c'est effectivement par l'anthroponymie qu'on peut retracer ces trajectoires familiales. La question des veuves est très importante dans les ordonnances. Elle marque à la fois donc l'implication des veuves dans les corporations et parfois aussi limite leur possibilité de travailler. Alors parfois, dans certaines ordonnances, leur travail au sein de la corporation et du métier est conditionné à la présence d'un homme dans la maison qui doit prendre le travail. Parfois, au contraire, on précise que si elles poursuivent le métier de leur mari après sa mort, elles ne doivent pas le transmettre à un autre homme pour limiter l'ouverture des corporations. Donc ça varie énormément en fait d'une corporation à l'autre. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est notamment la très importante présence des femmes dans les métiers du bâtiment. Et il me semblerait qu'avec le vieillissement, les attributs de la féminité varient. Peut-être que l'âge et le vieillissement, autant aux femmes, certains attributs, notamment sexuels, les autorise à pratiquer des exercices nécessitant une plus grande force physique. C'est-à-dire que, n'étant plus considérée comme féminine, elle peut faire des tâches masculines.
Toutes les deux, vous manipulez la notion d'agency, qui est une notion essentielle en histoire des femmes et du genre. Est-ce que vous pouvez la définir et nous expliquer dans quel sens vous lui donnez ? Ils ne sont pas exactement le même toutes les deux, donc dans chacune de vos périodes. Et est-ce que vous pouvez peut-être illustrer avec des exemples ?
Pour moi, le terme d'agency renvoie vraiment à la question de l'agentivité et le fait que les femmes sont des actrices dans la société à part entière et elles savent donc être des actrices à part entière et ont une conscience de leur pouvoir d'action. Là où ça se manifeste le plus clairement pour moi, c'est dans le droit, puisqu'on voit au travers des contrats, des actes de la pratique, que les femmes connaissent le droit, connaissent la coutume et parviennent à jouer avec les différents niveaux de coutume. On parle souvent d'un millefeuille coutumier, puisqu'il faut comprendre qu'il y a la coutume de la ville, donc d'Amiens, la coutume de la prévôté d'Amiens, le prévôt étant un représentant de l'autorité royale, la coutume du bailliage, qui est un autre niveau dans la structure administrative du royaume. Elles savent jouer aussi parfois, en fonction de leur résidence, choisir quelle est la coutume la plus favorable. Et on voit dans la pratique qu'elles savent, par exemple, dire qu'elles préfèrent choisir le douaire. Alors le douaire étant un gain de survie, une somme d'argent, on va dire, qu'il aurait attribué à la mort de leur époux. Elles sont capables de choisir le douaire de la coutume ou le douaire qui a été contracté par leur mari lors de leur mariage, s'il aurait plus ou moins avantageux.
Donc elles sont capables de choisir et d'en jouer.
Exactement, voilà. Moi, je me suis beaucoup... Enfin, pour moi, vraiment, la notion de l'agency, je l'ai aussi nourrie de la lecture aussi de travaux de Michel de Certeau sur la question là, du faire, de la norme, et aussi à la question de la life course, et donc des différents aussi âges de la femme, puisque évidemment, son agentivité, sa capacité d'agir, conscience d'agir, évolue en fonction des époques de sa vie.
Le décès de leur mari est souvent l'occasion pour de nombreuses femmes d'accéder pleinement à l'exercice indépendant d'un métier et de compléter ainsi les revenus nécessaires à sa subsistance ainsi qu'à celle de sa famille. Le caractère fermé, très protectionniste des corporations du nord de l'Europe, caractère qui ne ferait que s'accentuer à la fin du Moyen-Âge, semble encourager l'embauche des veuves d'anciens compagnons. Il s'agit ainsi de préserver le savoir-faire des compagnons et de limiter l'introduction d'étrangers au sein du métier. La poursuite d'un métier permet de fait à la femme en situation de viduité d'accroître ses moyens de subsistance, voire, plus encore, d'accéder éventuellement à une certaine prospérité. Chef de feu, la femme devient responsable devant les autorités et acquiert une plus grande autonomie dans la gestion de son patrimoine. Julie Pilarger, La problématique du veuvage féminin en Picardie à la fin du Moyen-Âge. Intervention proposée dans le cadre de la journée d'études du 22 mars 2014, organisée par Elisabeth Crouzet-Pavon.
Oui, en réalité, on a à peu près la même approche. Hein. Nous, ce qu'on aime dire, alors je dis nous, puisque c'est aussi quelque chose qu'on reprend beaucoup dans le cadre du groupe Genre et Classe Populaire que j'évoquais tout à l'heure, c'est une citation de Bernard Le Petit dans Les Formes de l'expérience en 1995 qui dit, en fait, bon, il dit les hommes, alors je ne vais pas dire les hommes, hein, mais les êtres humains ne sont pas dans les catégories sociales comme des billes dans des boîtes, et les boîtes n'ont d'autre existence que celle que les êtres humains en contexte leur donne. Donc c'est cette idée, en fait, la manière dont moi j'appréhende donc l'agency, c'est pas de nier l'existence de structures, c'est simplement de placer le curseur sur la manière dont les acteurs et les actrices, en l'occurrence, agissent, réagissent, donc s'accommodent, négocient, puisque l'agency, ça n'est pas seulement de la résistance ou de la subversion. C'est-à-dire que c'est juste se demander un peu comment les acteurs et les actrices agissent de manière générale. Et alors, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, dans la manière dont aujourd'hui les historiennes, notamment du travail, reprennent aussi cette conceptualisation, il y a une forme de double inspiration. Bon, alors, tu parlais de Certeau, donc il y a effectivement ces recherches, les arts de faire qui comptent aussi là-dedans. Hein, c'est un peu cette même dynamique. Mais il y a aussi la revisite. Enfin, la revisite, pas la revisite, mais les publications très nombreuses de E.P. Thompson, hein, donc, qui a écrit La formation de la classe ouvrière anglaise en 63 et qui, du coup, à l'occasion donc, du cinquantenaire de la publication de cet ouvrage, il y a eu, du coup, nombreux ouvrages qui ont été traduits et qui, du coup, Mais là, Jen C, au cœur en fait de sa recherche, hein, sur la formation de la classe ouvrière anglaise, c'est-à-dire cette idée justement que les acteurs aussi agissent, etc., le replacer le sujet au sens, l'expérience. Donc ça, c'est une première filiation. Une deuxième filiation qui est bien plus la filiation des études de genre, c'est Judith Butler. C'est-à-dire que du coup, l'idée, alors Judith Butler, elle explique que voilà, la stabilité des normes sociales dépend de sa réitération quotidienne. Et donc, ce qui ouvre la possibilité de ne pas réitérer la norme. Donc, elle prend l'exemple de la drague, etc. Donc, en fait, je crois que nous, enfin, je ne sais pas ce que tu pourras en dire, Julie, mais on est un peu le produit de ces deux histoires-là. C'est-à-dire à la fois voilà, l'histoire ouvrière et cette idée d'agency qui est reprise notamment donc, par Ipi Thompson, et en même temps, Judith Butler, études de genre. Et donc, ça, on croise ça et on en fait quelque chose dans nos recherches. Et je pense que c'est un peu ce qui peut expliquer l'usage de ce concept dans la période récente dans l'historiographie actuelle, quoi.
Je voulais aussi souligner, pour moi, quelque chose de très important, c'est le caractère très pragmatique de la société que j'étudie. Et en fait, pour expliquer aussi la présence des femmes dans le travail et la place qu'ils leur accordée dans la coutume, il est bon de rappeler qu'on estime que dans les villes de la fin du Moyen-Âge, en Allemagne, notamment au nord de la France, on a en moyenne 100 à 110 femmes pour 90 hommes. Et donc, au bout d'un moment, c'est quand même plus de la moitié de la main-d'œuvre disponible, qu'on fait aussi avec la main-d'œuvre qui est disponible. Donc, je trouve que c'est très important d'insister sur ce caractère pragmatique voilà, et de faire attention à ne pas coller des concepts parfois plus tardifs sur les époques anciennes. Et surtout, c'est à la fois un classique, mais je pense que c'est toujours important de le rappeler et de remettre en cause cette division des sphères qui oppose traditionnellement une sphère publique, masculine, marchande et productive à une sphère féminine, privée et reproductive. Puisqu'au Moyen-Âge, la sphère privée, enfin l'atelier, est également le lieu de la maison et le lieu de la production et le lieu de la vente. Donc en fait, on a une interpénétration constante des sphères privées et publiques, des sphères de production et de reproduction qui fausse totalement cette lecture dichotomique.
Oui, et puis ce qui fausse la lecture aussi, ce sont les sources. C'est le biais des sources qu'il est nécessaire de contourner.
Effectivement, alors j'ai eu l'occasion d'en parler hier dans une autre émission Remue Ménage sur Radio Libertaire avec Eliane Viennot, qui est spécialiste hein, de ces questions de langage. Et moi, quand j'ai commencé ma thèse, on m'a dit « vous ne trouverez pas les femmes dans vos sources ». Et honnêtement, c'est vrai que c'est très facile de passer à côté des femmes dans les sources, des femmes qui travaillent notamment. Je donne un exemple que j'aime beaucoup rappeler. Donc, c'est dans les comptes de la ville d'Amiens, je trouve cette mention. Donc, c'est la ville qui paye donc, des travailleurs. « À lui, Jacques, 5 sous, boulangère ». Si je ne sais pas que « à lui » en picard est utilisé pour « il ou elle », que Jacques est un prénom épicène, mais donc à préférément féminin à l'époque, alors qu'à l'inverse, Nicole, lui, est masculin. S'il n'y a pas précisé que ce Jacques, cette Jacques est boulangère, je passe à côté d'une femme. Donc il y a vraiment tout un travail d'écriture, de relecture du genre urbain. Donc, c'était quelque chose sur lequel je reviens un peu tout au long de ma thèse, hein, sur la question du genre de l'écrit, sur la particularité notamment de l'espace Picard, sur le fait que mon espace, donc avec le Picard qui est l'une des langues qui reste le plus longtemps au français, est aussi à un moment où le français s'impose comme langue officielle, puisque c'est donc dans les années 1530 que l'ordonnance de Villers-Cotterêts impose la tenue des registres de baptême, de décès de mariage en français. Il faut, comme le dit Didier Lette, mettre les lunettes du genre pour lire les sources. Et c'est très important d'insister sur ça parce qu'effectivement, si on veut passer à côté des femmes, on le peut très simplement. D'autant plus dans les métiers où parfois les noms de métiers ne sont pas féminisés et c'est seulement un nul, N-U-2-L-E, qui nous indique la présence d'une femme lorsqu'il est dit, par exemple, nul n'est nul, donc N-U-L, N-U-2-L-E, ne doit, par exemple, se rendre après 9h au marché, etc.
Merci Julie, c'est passionnant, ça pourrait être une conclusion, mais j'aurais bien aimé quand même demander à Fanny, rapidement, quelle est la situation des ouvrières en France actuellement, par rapport à la période que tu as étudiée précédemment.
Alors, la situation des ouvrières en France aujourd'hui, moi, je crois que déjà, ce qui, donc, j'ai pas travaillé précisément sur ça, hein, mais je pense que ce qui ressort, c'est beaucoup de précarité et beaucoup d'intérimaires. Donc, par exemple, donc ça sur Moulinex, moi, je le voyais déjà sur les années 80, hein, où il y a plus d'embauche, mais où il y a de l'embauche, mais uniquement d'intérimaires. Donc, il y a plus de carrière à vie comme la génération sur laquelle j'ai travaillé. Donc, ça, c'est le premier élément, beaucoup de précarité, beaucoup d'intérimaires et en même temps aussi un élargissement. C'est-à-dire que, donc là, on a beaucoup parlé d'industrie, mais en réalité, aujourd'hui, il est question des ouvrières du nettoyage, notamment celles qui, par exemple, nettoient les trains dans les gares, juste après que nous soyons descendus, et de leurs conditions de travail. Alors, il y a énormément quand même de points communs, hein, puisqu'elles sont quand même visibilisées par des luttes nombreuses dans la dernière période. Hein. Je crois que c'était Honnête, où il y a eu une grosse grève il y a quelques années, et où la question de la dignité, par exemple, est mise en avant, hein, donc qui était elle aussi mise en avant dans les années 70, avec l'idée que quand on était réduite à être des robots, on était déshumanisés, et donc du coup, on revendiquait une dignité. Donc, en fait, cette idée-là ressort encore aujourd'hui dans toutes ces mobilisations des ouvrières du nettoyage. Et après, la question se pose aussi sur, par exemple, on a beaucoup parlé des personnes qui font justement, qui travaillent aussi dans les hôtels, hein, et qui, notamment, il y a eu la grève victorieuse de l'Ibis du Batignolles il n'y a pas si longtemps. Et là encore, c'est pareil, c'est-à-dire c'est une contrainte du temps très importante, un nombre de chambres à faire en un temps record est totalement impossible à tenir. Et du coup, bien sûr, elles travaillent beaucoup plus que ce qu'elles ne sont censées travailler en termes de temps, puisqu'elles sont au rendement, elles sont à la chambre. Donc du coup, elles sont censées terminer à 13h et en fait, elles terminent à 17h parce qu'elles n'ont pas fini leur chambre, par exemple. Hein, je dis des chiffres approximatifs là. Mais globalement, c'est le même type d'enjeu. Et donc, je crois que si on devait un peu dresser ce tableau, il y a bien sûr toujours des ouvrières dans l'industrie, comme je les évoquais, mais moins dans des situations pérennes. Voilà, et on les voit hein, d'ailleurs, on les a vus dans toutes ces mobilisations récentes contre les fermetures. Il y a quand même une désindustrialisation que l'on connaît. Cela dit, elles existent toujours et dans des situations plus précaires pour les plus jeunes qui se trouvent embauchés.
Alors, comme d'habitude dans ce podcast, nous allons terminer par la question de la transposition dans les cours du secondaire du sujet du jour, donc du travail. Le travail est une thématique qui est assez peu étudiée dans le secondaire. On l'évoque dans les programmes de 4e et de 1e, dans les leçons qui sont consacrées à la révolution industrielle et à ses conséquences sociales. Lorsqu'on l'évoque, le phénomène n'est pas du tout genré. On a tendance à employer le masculin générique, ce qui tend à invisibiliser les travailleuses. On voit apparaître des ouvrières dans certains manuels, nous l'avons vu ensemble en juin avec Florian Besson pour son manuel de première, mais cette présence est limitée et les ouvrières ne sont pas vraiment intégrées au récit historique, même lorsqu'elles sont présentes dans les documents. En histoire médiévale, les enseignants et les enseignantes peuvent mentionner le travail des paysannes en 5e, mais finalement, le travail des hommes et des femmes ne fait pas l'objet d'une étude spécifique, même si on évoque les marchands, mais jamais les marchandes. Du coup, j'ai une seule question à vous poser. Pourquoi et comment faire entrer le travail féminin dans les cours d'histoire au collège et au lycée, que ce soit sur le Moyen-Âge ou sur l'époque contemporaine?
Alors pour le Moyen-Âge, moi j'aime bien trouver en fait un règlement de métier qui s'adresse aux maîtres et aux maîtresses, parce qu'en plus ça permet d'évoquer la question de l'inclusivité de la langue médiévale, de montrer que voilà, on n'invente rien, qu'il ne s'agit pas de féminiser la langue française, mais de la démasculiniser. Donc en plus on peut partir sur plusieurs éléments et donc trouver une un statut où des maîtres et des maîtresses, des apprentis et des apprentisses, tout simplement. Et une iconographie, il y en a plusieurs très célèbres, montrant notamment la place des femmes dans la ville et sur le marché. Rappelez aussi que les femmes sont vendeuses et acheteuses, et que la ville est aussi un espace de liberté pour certaines femmes issues de la campagne.
Et en contemporaine ?
Oui, en contemporaine, il y a toutes sortes de supports qui peuvent être utilisés. Je pense qu'on peut aussi les utiliser dans les thèmes sur les conditions féminines, Voilà, en quatrième, je crois. Que je dirais, c'est travailler par exemple sur les grèves, c'est très intéressant. Et il y en a à peu près à chaque période, avec des ouvrières en grève à peu près à chaque période. Hein. Donc, par exemple, des ovalistes, donc, qui sont les ouvrières de la soie à Lyon en 1869, jusqu'au très, très, très contemporain. Alors, je ne sais pas quel exemple on pourrait donner, mais par exemple, les Le Jaby. On peut travailler sur des chansons, puisque c'est un outil qui est très largement utilisé par les ouvrières en grève. Et je pense par exemple aux ouvrières viticoles. Là, j'ai lu récemment le travail de Jean-Louis Escudier sur les ouvrières viticoles qui rend compte d'ailleurs de chansons et des textes de chansons et de travailler un peu, qui rendent compte justement des conditions de travail et des enjeux de la revendication et qui montrent qu'on peut vraiment étudier justement avec les élèves ces chansons. Je trouve que c'est intéressant. Ou bien des iconographies, par exemple sur 36. Et par exemple, voilà, au moment où il est question du Front populaire dans le programme, je pense que ça peut être aussi intéressant de revenir sur 36 et aussi ses effets genrés, c'est-à-dire qu'on parle des occupations, de la mobilisation, etc. Mais quand même, 36, c'est la systématisation des conventions collectives et de fait la systématisation de l'inégalité femmes-hommes dans ces conventions collectives, ce qui n'était pas complètement systématique antérieurement. Donc je trouve que ça aussi, ça peut être assez intéressant de rendre compte un peu de la complexité de ces moments-là.
Donc, pour toutes les deux, faire vraiment bouger les lignes qui sont mises par les programmes.
Oui, et puis évoquer aussi la question des périodisations, encore et toujours, voilà, en rappelant effectivement que c'est une périodisation faite par les hommes et pour les hommes, et qu'elle ne correspond pas non seulement à l'histoire des femmes, mais à l'histoire aussi des classes populaires. Moi, c'est aussi quelque chose vraiment que je commence toujours en début d'année à chaque niveau par évoquer voilà, cette question de la dépériodisation.
Oui, et on peut le faire aussi dans le cours de seconde sur Exactement. La périodisation. C'est l'exemple que j'utilise aussi. Bien, je vous remercie toutes les deux. On avait dit qu'on allait finir par les annonces de vos participations, de nos participations à toutes autour de cette table au rendez-vous de l'histoire de Blois. Donc, les unes après les autres. Fanny, peut-être, tu commences ?
Oui, donc de mon côté, j'interviendrai donc dimanche 10 octobre de 14h à 15h30 à la salle Kléber-Lousteau, donc dans l'atelier donc Travailler pour la mode 19e-21e siècle organisé par Manuel Charpie.
Julie ?
Alors j'interviendrai avec toi, Cécile, le vendredi 8 octobre, donc sur le site de la chocolaterie, dans une table ronde de mnémosine sur intitulée « Loin des fourneaux et des aiguilles, les espaces du travail féminin » et nous parlerons donc de la particularité de ces espaces au Moyen-Âge.
Et Fanny Cohen-Moreau, que nous n'avons pas entendu aujourd'hui ?
Oui, je m'occupais de la technique, mais oui, effectivement, avec Passion Médiéviste, je serai à Blois, donc le samedi 9 octobre de 17h15 à 18h45 sur le site de la chocolaterie, et également salle 214, pour parler du médiéviste au travail, donc comment faire une thèse d'histoire médiévale au XXIe siècle avec d'anciens invités de mon podcast, donc ça va être très sympa. Et donc toi, Cécile ?
Et moi, pour finir, je serai le vendredi matin à 11h15 à l'INSPE de Blois, pour un atelier pédagogique avec Véronique Garrigue sur les gestes du travail, les représentations des gestes du travail masculin et féminin de 1850 à 1930. Je vous remercie énormément pour cet entretien qui a été passionnant, un peu trop court, mais nous reviendrons.
Avec plaisir, merci.
Merci à vous.
Vous trouverez, comme d'habitude, une bibliographie indicative sur notre site internet. Et dans le prochain épisode, nous parlerons des femmes au néolithique avec Anne Augereau. Ce podcast a été réalisé pour l'association Mnémosine avec à la production Cécile Béguin en collaboration avec Fanny Cohen-Moreau et Clémentine Letellier à la lecture des textes.